Espace 2.
Les forts en thème avec l'AGFI, le quotidien économique suisse du lundi au vendredi.
Quand on dit 3 ans et demi, ce n'est rien. Ça ne signifie absolument rien. Mais ça signifie 24 heures par jour pendant, disons, une semaine. Et après encore une semaine. Et un mois. Et 3 mois, et 12 mois, et 24 mois, c'est ça qui est... On ne peut pas imaginer cette durée, quand c'est 15 jours, 20 jours, tu sais que c'est limité, mais tu ne savais absolument pas quand ça va terminer. C'est ça qui t'a tué.
Sarajevo a connu 1350 jours de siège, le plus long du XXe siècle. 3 ans et demi de 1992 à 1995, 3 ans et demi où la population a vécu dans les privations et sous la menace constante des snipers et des tirs de mortier. Ces années-là, 8 ans plus tard, restent gravées dans l'esprit des hommes. C'est à leur mémoire, mémoire en charpie, que nous rendons hommage ce soir sur Espace 2.
Les forts en thème.
Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. 434 000 habitants aujourd'hui, alors qu'elle en comptait 600 000 avant la guerre. Romaine, puis goth, puis slave. Au XIIIe siècle, la ville s'appelait Bosnavar, ville de Bosnie. Dès le XVe, elle passe sous domination turque, puis en main austro-hongroise à la fin du XIXe siècle. Sarajevo est et reste donc au cœur de l'Europe centrale, au cœur des Balkans, au cœur de l'histoire aussi. En 1914, le 28 juin, l'héritier d'Autriche, François Ferdinand, et sa femme Sophie sont assassinés à Sarajevo. Un mois plus tard, suite à cet assassinat, les tensions entre grandes puissances explosent et c'est le début de la Première Guerre mondiale. Ensuite, la ville sera yougoslave, puis croate et intensément bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et à nouveau rattachée à la République de Yougoslavie par Tito dès 1944. En 1984, Sarajevo accueille les Jeux olympiques d'hiver et séduit le monde entier par son hospitalité et le charme de ses collines. En 1991, la Bosnie proclame son indépendance dans le sillage de la Slovénie et de la Croatie. La poudrière des Balkans prend feu. Après la guerre entre Serbie et Croatie, en mars 1992, les Serbes de Bosnie déclenchent la guerre qui provoquera le déplacement de 2 millions de personnes et coûtera la vie à 200 000 Bosniaques. Le 21 octobre 1995, Tudjman, Milosevic et Alija Izetbegovic signent les accords de Dayton. Et voilà, depuis, les médias ont tiré un trait, tourné la page. Le feuilleton de la guerre en ex-Yougoslavie appartient au passé. Pour les médias, peut-être, mais sûrement pas pour les habitants de Sarajevo. C'est leur mémoire que nous explorerons ce soir grâce à Marie Fréring et Jenny Beck dans Les Forts en Thème. Les Forts en Thème réalisés par Didier Rossa dans une production de Martine Béguin. Bienvenue à vous Marie Fréring. Vous avez vécu et travaillé à Sarajevo dans une période assez difficile entre 1994 et 1997, en pleine guerre tout d'abord, puis après la guerre pour la reconstruction de la région et de la ville. Pourquoi aviez-vous envie de retourner là-bas en 2003 ?
D'abord parce que j'ai un attachement immense et pour la ville et pour mes amis qui sont restés là-bas. Et puis d'autre part, que il se trouve que je suis aussi un peu traumatisée par cette guerre ou par ce temps que j'ai passé là-bas et que j'ai du mal à retourner là-bas comme ça, en visite, en touriste. Et j'ai pensé justement travailler là-dessus, sur et ma mémoire et leur mémoire. Et dans ce rapport très, très amical et très affectueux qu'on a.
Pour découvrir Sarajevo avec vous, on commence par où, Marie Fréring ?
Eh bien, on part avec un homme merveilleux qui s'appelle Jovan Divjak, ancien général à la retraite de l'armée bosniaque, qui est un homme qui est très aimé à Sarajevo, très aimé de la population, très controversé aussi. Et il le disait lui-même que nous, les étrangers, notre problème, c'est que nous l'aimions beaucoup. Et donc, lorsque nous étions là-bas, il nous a proposé d'aller sur les hauteurs. Ces hauteurs-là, où était l'ennemi et où moi, je n'étais jamais allé. Et donc, nous découvrons la ville par le haut.
Cette colline s'appelle Gerdogne, c'est à hauteur de 904 mètres. Dans cette direction, c'est nord. Dans cette direction, est-ce que vous voyez cette cheminée? Un cheminée, c'est Vogostia. Ça, là, c'était une grande entreprise militaire. On a produit les balles, les obus, pour l'artillerie, pour les chars, même pour les roquettes anti-chars, etc., etc. Et la majorité des usines militaires étaient en Bosnie. Toujours l'histoire, si on attaque l'ouest, c'est Bosnie qui est la dernière ligne de défense, avec les grandes montagnes, voilà, avec les collines, avec les rivières qui peuvent garder mieux que dans à Vojvodina ou Slavonie, etc., etc. On descend. On va à
Je vais vous raconter une histoire récente. Mes petits-enfants sont arrivés à Sarajevo, passer ses vacances chez moi. On s'est promenés à Sarajevo et dans les rues. Et sur les rues, il y avait des traces des obus. Et mon petit-fils m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit, c'était un obus. Qui a jeté ces obus? J'ai dit, les Serbes. Et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit... Oh, ces Serbes, pourquoi ils ont fait ça? Il était mieux qu'ils jouaient au piano. Pourquoi ils n'ont pas joué au piano? C'est mieux que tirer. C'était sa réaction. J'ai trouvé ça formidable.
Première retrouvaille avec Halima Mušić. Halima est actrice, elle a enfin retrouvé les planches, la scène. Son métier qu'elle a très peu exercé, évidemment, pas pendant la guerre et qu'elle a eu du mal à retrouver après la guerre. Halima est aussi une passionnée de la langue française et elle s'est exercée, avant qu'elle nous parle au micro, à ne pas confondre fourrir et fourrure et autruche et autriche.
J'ai presque oublié les... beaucoup de moments, mais il y a quand même les moments très pénibles que j'ai retenus, coûte que coûte. J'ai retenu, mais je n'aime pas prononcer le mot obus. J'agirais de ne jamais prononcer ce mot, mais quand même, de temps en temps, je fais ça. C'est, je ne sais pas, c'est le cerveau qui fait une sélection. Et je ne sais pas d'après quelle loi, d'après quel modèle. C'est son truc, ce n'est pas le mien.
Et qu'est-ce que tu peux raconter, toi, de ce que tu as vécu?
Oh, c'est une question difficile. J'étais absolument seule et, comment on dit, j'ai dépendu de mes moyens, propres moyens, mais à Sarajevo, à ce moment, à cette époque-là, il n'y avait absolument rien, sauf l'hiver, la famine, les obus, les projectiles, rien d'autre. Rien d'autre, l'électricité, etc., que je ne répète pas les choses que tout le monde connaît.
C'est vrai, toi, tu habitais à Lipachino, ce 14e étage.
11e.
11e étage.
Oui, sans les escaliers, sans l'ascenseur, sans l'électricité pendant 6 ans. La guerre n'a pas duré 6 ans. Mais après la guerre, on n'a pas eu d'électricité au tout début. Et pendant 6 ans, chaque jour, il fallait monter les escaliers avec un peu de bois, avec, je ne sais pas, avec de l'eau. Oh, j'ai oublié le problème de l'eau. Ah, c'est le pire problème qu'on a eu. Et pour moi, à cette époque-là, la meilleure musique pour mes oreilles, c'était la musique de... Comment ça s'appelle dans les toilettes pour...
La chasse d'eau.
Oh, oui, ce n'était pas Tchaïkovski, ni Bizet, ni Mozart. C'est la musique de l'eau coulant ou courant, qui coule et qui peut comment nettoyer les toilettes. C'était très rare. C'est une des choses bizarres à raconter. Mais c'est comme ça. C'est très sincère.
Je me souviens, c'était très impressionnant quand je suis allée chez toi. Et je me souviens, parce que je l'ai senti et je l'ai entendu à ce moment-là quand tu l'as dit, où tu disais qu'en fait, tu avais plus peur quand tu les entendais chanter que quand tu les entendais tirer.
Oui, je me souviens, je me souviens. Ah, c'était mon expérience de l'autre côté de la ville. Je suis allée chez une copine. C'était l'hiver. Et c'était le Noël orthodoxe. C'est 7 janvier 93. Et ma copine, elle avait quelques bois, elle avait un poêle, on dit un poêle, pour nous chauffer, etc. Et ils ont tiré, tiré, et tout d'un coup, c'était très près, c'est 30 mètres, je ne sais pas. D'un côté, ce sont les maisons, je ne sais pas comment les appeler, ces maisons bosniaques. Mais ce n'est pas exact comme le terme. Et de l'autre côté, ce sont les maisons serbes. Tout d'un coup, ils ont commencé à chanter. Ce sont les chansons que je n'aime pas. Et c'était un peu... Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. Mais on s'est habitué déjà au tir. Et c'était un son que j'avais accepté. J'étais obligée à les accepter. Et tout d'un coup, c'était une chanson... C'était... Tandis qu'ils chantent, tu penses, maintenant ils chantent, et qu'est-ce qu'ils préparent pour nous maintenant? Peut-être un coup nouveau ou quelque chose. Mais quand on tire, tu sais, il faut se cacher, il faut se mettre à l'abri, il faut se mettre en garde.
Est-ce que tu en rêves parfois?
La guerre?
Oui.
Non, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais pas tellement. Pas tellement. C'est bizarre. Ce sont toujours les affaires cérébrales. C'est quelque chose. On efface, je pense. On efface. Et il y a des docteurs, des médecins avec lesquels j'avais parlé. Ils m'ont dit que la tête oublie. Elle s'efforce d'oublier. Mais le corps, c'est le corps qui a retenu plus que la tête. La tête a capacité pour effacer. Le corps, non, ne dispose pas de cette capacité. C'est ce qu'on nous a dit.
Et est-ce que la littérature t'a aidé? Qu'est-ce que tu as lu?
Oh oui, bien sûr. C'est la musique. Quand on avait d'électricité, c'est... Concernant la musique, je pense que c'est une chose sans laquelle la vie aurait été impossible. C'est la musique qui m'a aidée. Chaque fois quand, après par exemple, à l'issue de 3 mois, de 4 mois, nous avons eu un peu d'électricité, j'ai mis tout d'abord une disquette ou un CD pour entendre un peu la musique, de m'aider, de me... comment dire, remédier. Et après, j'ai couru pour faire la cuisine ou chauffer un peu d'eau pour laver quelque chose, etc. S'occuper des travaux normaux dans un appartement. Tout d'abord la musique. Et aussi, grâce à la littérature, il était impossible d'acheter un livre nouveau, mais il y avait des Français qui m'ont prêté, qui m'ont donné des livres, des bouquins en français. Et grâce à notre... grand auteur, c'est Ivo Andrić. J'ai son œuvre complète chez moi, Et je lisais toujours, toujours, je revenais toujours à Ivo Andrić, mais ce n'était pas très conseillé à cette époque-là, parce qu'au tout début de la guerre, il y avait des gens qui ont voulu annuler, supprimer l'existence de cet homme, soi-disant ayant détesté les Bosniaques, etc., etc. Comment ils ont lu son œuvre, je ne sais pas, chacun son truc.
C'est une ville, dans tous les sens du terme. En commençant par le sens fantastique de ce mot dans les contes de notre enfance, et puis il les emmena dans une très grande ville. En passant par les données historiques concernant le développement et le déclin de cette ville dans le passé, et jusqu'aux données statistiques sur son essor actuel. Je la regarde comme ça, d'en haut, et la ville nous parle de ses édifices, ses jardins, et ces rues qui sont écrites et dessinées sur les pentes escarpées des collines, comme sur les pages d'un livre à demi ouvert. Devant nous ressurgissent comme ressuscités des fragments de son passé. Sarajevo a deux aspects et deux visages, l'un sombre et sévère, l'autre clair et affable. Sur les sommets au-dessus du défilé étroit et infranchissable s'élèvent les tours et les bastions d'une forteresse d'origine osmanlie. De ce canyon s'exhale toujours comme un souffle des guerres et dangers d'antan, un peu de crainte et d'anxiété mêlée au vent vif des hauteurs. Et en bas, dans la vallée, là où réside le pouvoir ottoman, se sont développés en collaboration avec la population locale lors des années fastes le travail créateur et la vie. C'est là où s'étend la ville de Sarajevo. Une cité aux traditions grandes et anciennes régie par les corps de métier, ville industrieuse où s'affichent conscience civique et fierté municipale, esprit d'entreprise des hommes d'argent et besoin des sans-argent, mais où réside tout autant le bon goût et un sens élevé de l'ordre et de la beauté, d'une vie harmonieuse et heureuse. Ces deux caractéristiques historiques contradictoires de Sarajevo ont laissé des traces jusque dans l'âme des habitants. Haute conscience de soi, dynamisme, désir d'une vie bien remplie et aux larges perspectives d'avenir. Et malgré tout cela, beaucoup de mélancolie, un air d'anxiété indéfinie et de circonspection immémoriale face à la vie et à tout ce qu'elle apporte. Telle est la ville, et telles sont les impressions et les pensées qui nous viennent à chaque fois que nous escaladons un des sommets couronnés d'anciennes fortifications qui ceinturent et dominent Sarajevo. Ivo Andrić, cimetière de Sarajevo.
Je vous souhaite, à vous tous, que votre pays n'entre jamais à la transition, comme le mien. C'est très pénible. C'est très, très pénible. Et maintenant, on est entré à la transition. Nous sommes un pays. Je pense que c'est quelqu'un qui a construit comme ça pour les Slaves. C'est paranoïa, peut-être, mais c'est difficile à accepter que rien n'est défini. Je dois lutter chaque jour pour les choses qui ne sont plus sûres. C'est cette incertitude qui nous maltraite, dont on souffre maintenant. Il faut accepter ça, il faut être courageux, je sais. Et le système, maintenant, pour moi, c'est un peu cruel. Et quand on regarde la situation actuelle en Bosnie, il y a très peu de gens qui vivent bien. La population en Bosnie-Herzégovine, elle est résignée, elle est dans les souffrances. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de l'argent. Il faut regarder la situation avec les retraités, avec les anciens combattants. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup. Et d'un côté, vous avez la presse, nouvelle composée, je l'appelle comme ça, qui donne chaque jour les annonces, un chanteur, qui est aussi un parvenu, qui a beaucoup d'argent, qui montre son chapeau, et je ne sais pas, une broche, une décoration, et il déclare avec fierté que cette décoration coûte 8000 euros. Et de l'autre côté, vous avez un retraité qui était à l'époque un professeur dont la retraite compte 80 Deutschmarks. C'est un déséquilibre affreux. Et je pense que c'est une honte pour ce pays. Vous comprenez ?
Et où tu trouves, toi, les ressources, justement, pour accepter ?
Je n'accepte rien. Je ne trouve pas du tout les sources. Je suis très fatiguée de cette vie. Je ne suis pas du tout motivée. Je cherche seulement un peu de paix. Et je me retourne à la nature. Je suis très heureuse si je me cache dans une forêt, si je peux cueillir une fleur, ou si je vois une petite fleur dans mon pot à fleurs sur mon balcon. On est devenu très très modeste. Ou si j'écoute un peu de musique, mais on est résigné.
Скамболу на Босфору старий паша лежить, душа му є на ізмаку церної землі тежі. Молитва є нему света, кад му є зін смінарета, Viče nas av glas, ala i lela, selam aleikum, ala i lela, selam aleikum. Kad je čula pašinica za tu tužnu vijest, da je paša preselio na onaj drugi svijet. Iz oka joj suza kanu, pa na minder mrtva panu, pašina ljubav, ala i lela, selam aleikum.
Še odred gdje lupa Maja, kad su slobodni točko. U pet, Maja, valja, važi. Aj, čao, čao.
Qui est au téléphone, Marie Frering?
C'est Stanko, Stanko Vasic. Et si vous avez besoin d'un ange gardien à Sarajevo, c'est lui qu'il faut demander.
Tu te souviens du bruit?
De?
Du bruit.
Du bruit, oui. Tous les matins, à 4h30, au-dessus de... On se réveille et on est dans nos lits et on attend. Est-ce qu'elle va entrer ou elle va passer? On attendait toujours qu'elle va entrer parce que c'était normal qu'un obus entre dans un appartement et fait des catastrophes. Elle font... On l'écoute de Railovac et elle va vers la ville, juste au-dessus de notre appartement. Tout ce qui apporte la guerre, c'est partout la même chose, la guerre et la guerre. Je me souviens que au début, vraiment au début, on pouvait avoir de l'argent comme on veut, 1 million de Deutschmarks, mais on n'avait rien ici d'acheter. Rien. Je me souviens très bien, un œuf, c'était 6 Deutschmarks. J'ai payé 200 Deutschmarks en carton des œufs. J'ai couru chez moi et j'ai dit à ma mère, voilà, tout le monde... Il y en a combien? 30. Pour père, 10. Pour moi, 10. Et pour toi, 10. Tout de suite, on va tout manger. Parce qu'on ne sait pas demain si on sera vivant.
Et tu t'es occupé beaucoup pendant la guerre de l'approvisionnement?
Au début, j'étais toute seule qui amenait du pain dans mon quartier. Au début, j'avais un petit espace où j'amenais du pain. Et j'avais 500 de gens qui attendaient le pain. Je m'occupais de ça. J'étais content d'apporter du pain aux gens. Il y avait plein de vieux qui avaient... Mais tout le monde avait peur de sortir de leur appartement. Et moi, j'étais toute seule dans la rue. J'apportais du pain et si je trouvais des petites choses de nourriture, j'apportais là-bas. Et je me souviens, au début, j'ai marché comme Tito. Comme Tito, j'ai marché à cette époque parce que tout le monde ne voulait pas sortir. Il y avait plein des obus et des snipers et tout ça. Et j'ai couru vers le Pekara.
Ah, tu es allé les chercher dans la grande boulangerie à Velika Pekara.
J'ai pris 1000, 1500, 2000 du pain. Je l'ai porté là-bas et je l'ai distribué aux gens. Et dans la même voiture, j'apportais des blessés, des morts, du pain et tout ça. Là maintenant, quand je me souviens, quand j'ai fait la comparaison entre la guerre et après la guerre, je trouve que c'était mieux pendant la guerre. C'est vrai, c'était difficile, c'était dangereux, c'était... Mais je pense que les gens, ils étaient moins... plus heureux. Je ne sais pas si on peut dire heureux, mais là maintenant, les gens, ils sont stressés, énervés, ils sont pas contents et c'est plus difficile de vivre. C'est parce qu'on désire toujours plus.
Et moi, j'ai ressenti ça aussi. C'est vrai que des fois, j'ai dit aux gens en France, c'est peut-être scandaleux de dire ça, mais je n'ai jamais autant ri que pendant la guerre.
Oui, plein de gens ici disent la même chose. Hier soir, j'ai parlé avec un copain. Et il a parlé avec son père et son père lui a dit « Oh, j'aimerais bien encore un peu de la guerre pour rire, pour être bien, je sais pas. » Là, maintenant, ce n'est pas facile.
Est-ce que les gens ont donné toute leur force pendant la guerre?
Mais on trouve qu'on a perdu 10 ans. Et on est perdu là. On ne sait pas si on a 20 ans ou 30 ans. Moi, j'avais 28 ans quand la guerre a commencé, 27, 28, je ne sais pas. Et là, maintenant, j'ai presque 40. Et je me comporte comme si j'ai 30. Quelque chose ne va pas. On est perdu entre tout ça. On a perdu plein de choses. Moi, par exemple, je ne suis pas marié à cause de la guerre. Moi, je n'ai pas de mémoire. La guerre est perdue. Pas vraiment perdue, mais on ne réfléchit pas souvent de la guerre. Quelquefois, quand on parle de ça, mais on ne parle pas entre nous. En Bosnie, c'est ennuyant de parler de la guerre. Tout est connu et quelquefois, on parle avec quelqu'un qui n'était pas là et... Là, on se souvient de la guerre, mais la guerre est disparue. C'est comme si c'était jamais. Comme il n'y avait pas de guerre. On a recommencé à vivre, on se bat pour survivre. C'est loin, les blessés, les morts. Pour moi, c'est loin. Comme si c'était jamais. Et je voulais dire, on ne croyait pas que la guerre va commencer. On ne croyait pas. Et là, maintenant, je ne peux pas croire qu'on a passé tout ça. Qu'on a passé la guerre.
C'est toujours irréel.
Toujours irréel. Mais Ce n'est pas la même chose pour moi qui n'a pas perdu quelqu'un de la famille et pour quelqu'un qui a perdu ses parents, ses frères, sa mère, son père. À cause de ça, je peux dire la guerre est loin, la guerre est... Mais pour les gens qui ont perdu la famille, c'est autre chose. C'est toujours présent, c'est toujours frais, là, ici, à côté de nous, autour de nous.
On se croirait en pleine colonie de vacances, Marie Frering, ou alors au milieu d'un camp pour jeunesse socialiste avec un nom scandé constamment, Divjak, Divjak.
Le général Divjak, Jovan Divjak, très populaire et qui a monté une fondation pour les enfants à Sarajevo. Et j'ai connu le général sous son uniforme. En 94, tous les moments étaient bons pour essayer de sortir un peu de cette pression, aussi bien pour les militaires que pour les civils. Et la première fois que je l'ai rencontré, je suis arrivé dans son bureau de son quartier général et il m'a invité à danser. Vous avez fait une fondation pour les enfants.
Oui.
Comment on peut transmettre aujourd'hui quelque chose aux enfants de cette guerre qui est très récente et comment on raconte l'histoire aujourd'hui aux enfants ?
Je peux vous expliquer le moment quand on a arrêté Milosevic, quand on voyait aller. Il y avait un journaliste, je pense, en français, qui m'a demandé « Et qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que les enfants pensent que Milosevic a envoyé aller ?» Je dis rien, ils ne parlent pas de ça. Ils sont pressés de l'histoire de Karadžić et Mladić. Dans les familles qui ont souffert, qu'il y a des morts, on parle toujours, c'est Mladić, Karadžić, qui sont responsables des morts de mon papa, de ma maman, etc., etc. Les enfants ne sont pas prêts de parler de la guerre. Ils ne veulent pas parler. S'il y a les mal à la famille, s'ils sont pauvres, s'il n'y a pas, je sais pas, de nourriture, on accuse, c'est à cause de Mladić et Karadžić. Et le moment, quand ils vont à La Haye, je pense que ça va se changer. Il n'y a plus de l'histoire de deux criminels de guerre. Les enfants qui sont entre eux, il y a un petit conflit dans les stades de foot, de basketball, de volleyball. Si on joue, par exemple, à Banja Luka, Trebinje, à l'entité serbe, là, il y a les provocations quand l'équipe de la fédération joue là-bas. Mais c'est presque la même chose si quelques équipes de l'entité serbe avant la fédération, on crie Tchétnik, Tchétnik, voilà. C'est encore présent. Mais les jeunes qui sont en contact, il y a les ateliers avec les Serbes, Croates, Bosniaques, on ne parle pas de ça. Ils ne veulent pas parler de ça. C'est-à-dire, on dit, il faut dépasser. Et je peux vous dire, c'est plus que les vieux, l'âgé, qui parle de la guerre que les jeunes.
Est-ce que vous croyez qu'il faut des statues, des objets, des bâtiments, pour qu'il y ait une mémoire collective. Ici, il y a beaucoup de traces de la guerre, oui. Mais il n'y a pas de mémorial.
Quand on parle de mémorial, il y a chez nous, mais je pense en Bosnie, qu'on a détruit beaucoup de choses pendant la guerre. Mais on discute entre nous, Si on dit que ce sont les restes de fascisme, vous savez bien, au commencement, on a détruit presque tous les monuments des partisans de Tito, en disant qu'ils sont comme les autres. Ça, on ne peut pas dire, de parler d'histoire. Vous avez raison, il faut avoir les monuments qui expliquent le moment qu'on a eu des massacres. Même, je pense que dans quelques temps, dizaines d'années, il faut avoir un monument pour tous les trois. On doit parler à Sarajevo que tous les trois peuples en ont souffert. En quelques jours, c'est 20 septembre, il faut en ouvrir un grand monument, c'est à Srebrenica. Et à ce moment-là, je craigne que les nationalistes ne veulent pas faire ça. Vous avez raison, il faut avoir dans chaque coin, dans chaque endroit où il y avait des massacres, il faut enregistrer. Mais pour moi, en bas à Sarajevo, il faut avoir un monument uni pour les citoyens de Bosnie. À Sarajevo, il y avait 10 400 morts. Parmi eux, c'est 1 624 enfants. Il y a un projet qu'il faut faire un monument pour les enfants qui sont morts à Sarajevo. Mais à mon avis, c'est mieux avoir un monument pour tous les citoyens de Sarajevo. C'est la même chose à Mostar, à Goražde, partout où il y avait les massacres sur les citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui me dit que nous sommes européens, si on parle de citoyenneté, pas de nationalité. C'est quelque chose, à mon avis, c'est quelque chose de privé. Mais citoyenneté, ça n'accepte plus que nationalité.
Et la mère, pourquoi t'es-tu endormie sur l'escalier ? Regarde, dans la lumière rosée du couchant sur les pentes de la montagne, la roche abrupte scintille. Le crépuscule nous caresse, nous couvre. Même tes cheveux changent de ton glacé de rose. Ton fichu bariolé vient de glisser sur les marches de l'escalier, poignée de pierres rutilantes. Lève-toi, petite mère, c'était une trêve. Ceux là-haut sur la montagne ont peut-être aussi été éblouis un instant par la lumière du soir. Peut-être prennent-ils du repos. Dépêche-toi, petite mère, ils ne se laissent jamais aller très longtemps à la contemplation. Marie Fréring.
Qui est cette mère dont parle votre texte, Marie ?
C'est la mère d'Emirka Bešić, qui habitait assez loin du centre-ville de Sarajevo. Et lorsqu'Emirka venait travailler, elle passait pratiquement par le cimetière. Et elle avait ses bottes, elle se cachait derrière les stèles du cimetière. Et dès qu'elle arrivait en ville, elle enlevait ses bottes et elle mettait ses jolies chaussures et on voyait arriver une belle jeune femme chic au bureau.
Ma mère, que je croyais connaître avant la guerre, n'était pas du tout celle que j'ai découverte pendant la guerre. De ma mère, avant la guerre, j'avais appris à faire la cuisine, à être bonne élève, bonne étudiante. C'est pour elle que j'ai fait un effort particulier quand j'étais aux études pour passer un examen difficile de la langue en troisième année. J'ai appris aussi de ma mère à être comme ça, patiente, à réfléchir calmement sur les choses comme ça, et j'avais une, sécurité au sein de ma famille, je m'occupais de rien, tout était prêt, tout le monde, les autres, mon père et ma mère, ils s'inquiétaient d'autre chose. Voilà. Et comme ça, de cette coquille, si on peut le dire comme ça, quand je me suis retrouvée au centre de la guerre, en pleine guerre, d'abord j'ai passé quelques mois, je ne sais plus combien, peut-être 4 ou 5, au souterrain de ma maison. On n'avait pas de cave, mais c'était juste le souterrain, le rez-de-chaussée, en fait. Et en attendant que la guerre passe, bien sûr, parce que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, je voulais être sûre et au calme, comme j'avais appris. Et bien, comme j'ai vu que ça ne passait pas, j'ai commencé à penser comment faire, comment sortir, comment me sentir vivre. Et ma mère s'en est bien aperçue et elle m'a dit, écoute, il faut que tu sortes, parce que moi, si j'étais à ta place, je ne me serais pas permise de passer quelques mois comme ça au rez-de-chaussée d'une maison sans rencontrer les amis, sans voir ce qui se passe. Bon, il y a des obus qui tombent, il y a des snipers qui tirent, mais ça ne va pas durer éternellement. On ne sait pas combien ça va durer, en fait. Et la vie, elle passe. Et il faut vivre la vie. Il faut sortir. Il ne faut pas que tu penses qu'obligatoirement un obus va te toucher ou une balle ou des choses comme ça. Il y a toute une vie qui passe en dehors de cette maison. Eh bien, ça a été vraiment une... Ça, c'était suffisant de la part de ma mère. Elle m'a incitée et je lui ai obéi. Et je suis sortie et j'ai vraiment continué à vivre et à rencontrer les gens et à connaître une autre vie, vraiment. Et j'ai jamais regretté cette décision. Par exemple, quand j'ai travaillé dans un bureau, on est resté parfois des journées entières enfermés, en travaillant. Et chaque fois, quand je venais à la maison pour me changer, voilà, pour manger bien et pour les voir et tout ça. Et au départ, j'avais toujours les larmes aux yeux et j'avais peur. Et elle m'a encouragée chaque fois en disant, mais écoute, on va pas chaque fois se dire adieu. Mais tu vas revenir encore, ça va passer. Et des choses comme ça. Donc moi, j'ai découvert que ma mère était très, très courageuse. Très, très courageuse. Et j'ai essayé, en fait, de la copier dans ce domaine-là aussi, comme j'avais fait avant, dans les autres.
Et la transmission de ce qui s'est passé pendant la guerre. Tu as dit tout à l'heure, effectivement, que tu as découvert ta mère. Et puis pas seulement ta mère, mais d'autres choses dont on n'avait pas conscience avant. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Et évidemment, pas obligatoirement en parlant de la guerre.
Je crois que ces choses-là et ces découvertes, désormais, font partie de nous maintenant. Ils sont incorporés dans notre expérience et nous ont déterminés dans un sens. Moi, je ne suis plus comme j'étais avant. Maintenant, moi, je ose, moi aussi. Je suis devenue courageuse. Sûre de moi. Tout ce que j'étais pas avant. J'étais seulement un enfant qui obéissait. Et maintenant, moi aussi, je suis à l'origine de certaines initiatives qui ont apporté des fruits. Non, voilà. Bon, outre le travail, qui a aidé aussi à me sentir vivante, c'est la vie sentimentale également, que j'ai découverte. Et bon, cette... autoconfiance. Parce que quand on est bien à l'abri, quand on est protégé, je ne pense pas que forcément on a une autoconfiance. Ou en fait, on ne la soupçonne pas. On ne soupçonne pas de l'avoir. Mais maintenant, moi, j'essaye tout ce que j'avais appris à transmettre justement à ma sœur. Et j'essaye de lui dire qu'en fait, le monde, c'est à la portée de la main. Qu'il ne faut pas rêver sans arrêt. Qu'il faut s'orienter vers les bonnes choses. Et ça va venir. Il faut avoir un but dans la vie. Un but, plusieurs buts. Des projets sans arrêt. Et s'y investir. Et ça ne peut pas qu'apporter des résultats. C'est sûr.
Comment ça se passe, par exemple, dans ton quartier, qui est un quartier de petites maisons, avec les voisins, entre ce qui s'était passé pendant la guerre dans la relation avec les voisins et aujourd'hui, chacun a vraiment repris sa bulle ou est-ce qu'il y a encore une solidarité qui existe dans ton quartier?
Très peu, très peu. Chacun a, comment tu dis, retrouvé sa poule. Les gens s'orientent vers eux-mêmes, individuellement. Et...
C'est le traumatisme de la guerre qui fait ce repli, tu crois, ou c'est le désespoir par rapport à l'avenir?
Bah, à mon avis, il y a ça d'abord, ce désespoir. Mais il y a aussi ce phénomène de la guerre et le phénomène auquel nous assistons après la guerre aussi. C'est que, quoi que tu fasses, tu n'es pas coupable. Les coupables n'ont pas été punis. Et à mon avis, ça se transpose, ça se déplace dans tous les domaines de la vie. Tu peux faire n'importe quoi. Tu as vu que pour les choses beaucoup pires, les coupables n'ont pas été punis. Et donc... Ça se déplace dans les têtes des gens, dans la mémoire, comme ça. Bon, peu importe si on fait du mal à quelqu'un ou si on trahit quelqu'un. Ou, voilà, ben, on a son propre but, on y va. Hein. Coûte que coûte. À mon avis, il y a ça aussi. Et il y a des injustices qui se multiplient de plus en plus. À ça, on assiste partout.
Il y a un lieu qui était extrêmement important pendant la guerre à Sarajevo, c'était la Benevolencia, l'association humanitaire juive. Et là, derrière un tout petit comptoir, mais dans une pharmacie très très pleine, il y avait Nada Bojanic, qui s'occupait de la pharmacie. Et il est difficile de vous présenter Nada sans vous parler de sa famille. Nedod, qui est prof d'anglais, Nada est prof d'arabe. Ses deux enfants, l'un est musicien, l'autre est designer, ils sont enfin revenus à Sarajevo. Et donc cette belle famille qui représente une famille multiculturelle de Sarajevo est enfin recomposée.
Maintenant, je comprends ma mère. Toute la vie, j'ai écouté ça. L'histoire de la guerre. Et je pensais toujours, oh mon Dieu, no, not again. Mais c'est ça. Maintenant, je comprends.
C'est-à-dire qu'elle a parlé et a continué à parler, même si peut-être toi, à ce moment-là, tu n'avais pas tellement envie d'écouter.
Oui, c'était ça. C'est la même chose.
Quand on dit il faut parler de la guerre, moi, je me suis rendu compte que ma mémoire, elle fonctionnait plus du tout pareil qu'avant la guerre. Que j'avais l'impression que ma mémoire, c'était un grand sac renversé, et puis après, on remet les choses dedans, mais c'est comme si rien ne retrouvait tout à fait sa place.
Et ma mémoire avait disparu complètement. Mes mémoires de guerre, waouh, c'est ici, encore, la guerre. Mais toutes les autres choses disparaissent.
Tu veux dire qu'il reste que la mémoire de la guerre?
Toujours.
Et c'est dans la mémoire? C'est dans les rêves?
Non, pas dans les rêves. Toujours, chaque jour, je me rappelle de quelque chose. Mais la chose qui me... Je perds de ça. Être seule dans la rue. Je peux être seule dans la rue parce que ma mémoire d'être... Les rues vides, j'aime pas ça. C'est la mémoire.
Quand on dit il y a la transmission de la mémoire, de ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi? Est-ce qu'on a appris quelque chose avec la guerre?
Moi, malheureusement, j'ai appris à détester quelqu'un. Pas ici, Israël. Mais les gens, oh non. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? J'aime pas ça.
C'est la peur qui fait ça aussi.
Non, non.
Aujourd'hui, tu les détestes toujours?
Oui, pourquoi pas? Ils ont détruit ma vie. Ma vie aussi.
Il y a un certain traumatisme de guerre.
Oui.
Il est à quel endroit ce traumatisme? Qu'est-ce qui est traumatisé?
La vie est traumatisée. On parle toujours. Tu te rappelles quand on... pendant la guerre, ça... tu sais, la bombe est...
tombée.
Tombée ici. Ici. Là. Et ça. On parle toujours de ça. Quand on est ensemble avec les gens qui ont été ici. Mais avec les gens qui sont venus après la guerre, on peut parler de ça. On ne comprend pas. Et maintenant, nous avons, nous chantons, nous les trois, les enfants et nous, et nous faisons une chose très importante. On chante la musique orthodoxe, catholique, juive et musulmane. C'était le concert à UNESCO, à Paris. Les gens aiment ça. C'était l'âme de Sarajevo. Peut-être, that's the beginning.
C'est le début.
C'est le début de notre Sarajevo. À nouveau vie. Et quand on chante, c'est formidable. Vous pouvez venir ce soir avec nous.
Kiše će umivati,
écoutez Les Forts en Thème jusqu'à 22h sur Espace 2. Les Forts en Thème.
En Thème.
Les Forts en Thème.
L'ombre des montagnes, collection de textes rédigés au retour, après 1997, par Marie Fréring.
Un soir, en rentrant chez moi, je vois que notre logeuse, sans doute fatiguée de devoir louvoyer avec les imprévisibles arrivées d'eau et d'électricité, au lieu de laver la nappe blanche de tissu, a fait les frais d'une nappe cirée. La nappe est verte, avec des motifs floraux stylisés. Bien sûr, une nappe cirée blanche, ça n'existe pas. Je mêle mes taches de vin aux entrelacs imprimés, traces rouges, soudain plus violentes. Je m'absorbe à faire courir les gouttes, à allonger les traînées, à tracer avec plaisir des chemins rouges sang dans la verdure. Je me couche en laissant sécher les figures sur le plastique. Le lendemain, j'hésite à nettoyer, à livrer la souillure au regard de ma logeuse. Qu'elle m'entende. Que quelqu'un entende mes cris jamais criés. Que je monte.